Chapitre 6. Moyens par lesquels M. Weston était parvenu à découvrir où était sa fille. Quoique dans une foule d'histoires, le lecteur soit obligé de digérer des apparitions beaucoup plus incroyables que celles de M. Weston, sans qu'on lui en donne par la suite la moindre explication, cependant, comme nous aimons passionnément à l'obliger toutes les fois que cela est en notre pouvoir, nous allons l'instruire sur le champ des moyens par lesquels M. Weston était parvenu à découvrir où était sa fille. Or, dans le chapitre 3e du livre précédent, nous avons laissé apercevoir, car ce n'est pas notre usage d'en dire plus qu'il n'est nécessaire dans l'occasion, que Mrs. Fitzpatrick, qui désirait se réconcilier avec son oncle et sa tante Weston, croyait pouvoir y réussir en leur rendant le service d'empêcher Sophie de commettre la même faute qui avait attiré sur elle-même la colère de toute sa famille. Après une mûre délibération, elle se détermina donc à informer sa tante Weston du lieu où était sa cousine, et lui écrivit en conséquence la lettre suivante, que nous donnerons en entier au lecteur pour plus d'une raison. « Honorée Madame, le motif qui m'a fait écrire aujourd'hui cette lettre la rendra peut-être agréable à ma chère tante, en considération d'une de ses nièces, quoique j'ai fort peu d'espoir qu'elle lui plaise autant par rapport à l'autre. Je vous dirai, sans un plus long préambule, que, comme j'allais me jeter à vos pieds, j'ai rencontré, par l'accident le plus étrange du monde, ma cousine Sophie, dont vous connaissez mieux l'histoire que moi-même, quoique je ne la connaisse hélas que trop bien. Assez, je vous assure, pour être convaincu que si on tarde à l'en empêcher, elle court le danger de se précipiter dans le même malheur que je me suis attiré, pour avoir rejeté avec autant de folie que d'ignorance vos très sages et très prudents avis. En un mot, j'ai vu l'homme en question. J'ai fait plus, j'ai passé avec lui la plus grande partie de la journée d'hier, et je puis vous assurer que c'est un jeune homme charmant. Pour dire par quel hasard je l'ai connu, cela serait trop long, et conséquemment ennuyeux. Mais j'ai changé de logement ce matin pour l'éviter, de peur que ce ne fût un moyen pour lui de découvrir où était ma cousine. Car il ne sait pas encore où elle est, et il est prudent qu'il ne le sache pas, jusqu'à ce que mon oncle l'ait mise en sûreté. Il ne faut donc pas perdre de temps. Il suffit que je vous instruise qu'elle est maintenant chez Lady Bellaston, que j'ai vue, et qui a, je crois, le dessein de la cacher à sa famille. Vous savez, madame, que c'est une femme dont la conduite est assez étrange. Mais rien ne me conviendrait moins que de prétendre donner des avis à une personne qui a, comme vous, un esprit étendu et une grande connaissance du monde. Je me borne donc à vous informer simplement du fait. J'espère, madame, que le soin que je prends en cette circonstance me rendra les bonnes grâces d'une dame qui a toujours déployé tant de zèle pour l'honneur et le véritable intérêt de toute notre famille, et que ce sera pour moi un moyen de regagner votre amitié, qui a fait une si grande partie de mon bonheur passé et est si nécessaire à mon bonheur futur. Je suis, avec le plus profond regret, honorée madame, votre très soumise et obligée nièce, et très obéissante et très humble servante, Henriette Fitzpatrick. Mrs. Weston était alors chez son frère, où elle avait fait constamment sa résidence depuis la fuite de Sophie, pour donner quelque consolation au pauvre M. Weston dans son affliction. Et nous avons déjà donné un petit extrait du genre de consolation dont elle lui donnait régulièrement une dose chaque jour. Quand elle reçut la lettre ci-dessus, elle était debout, le dos au feu, une prise de tabac à la main, et occupée au moment même à lui donner sa dose journalière de consolation. Elle la lut et la lui remit en disant « Voilà, monsieur, voilà des nouvelles de votre brebis égarée. La fortune vous l'a rendue, et si vous voulez vous gouverner par mes avis, il est encore possible que vous puissiez la sauver. » M. Weston n'eut pas plus tôt lu la lettre qu'il sauta de son fauteuil, jeta sa pipe au feu et poussa un grand cri de joie. Il appela tous les domestiques, demanda ses bottes, donna ordre qu'on sella le chevalier et plusieurs autres chevaux, et qu'on alla chercher sur le champ le curé Supple. Tout cela fait, il se tourna vers sa sœur, la prit dans ses bras et l'embrassa de toutes ses forces en disant « Morbleu, vous n'avez pas l'air content. On dirait que vous êtes fâché que j'ai retrouvé ma fille. » « Mon frère, répondit-elle, les plus profonds politiques, qui pénètrent jusqu'au fond des choses, voient souvent les affaires sous un aspect fort différent de celui qui paraît à la surface. Il est vrai, je l'avoue, que les choses paraissent moins désespérées qu'elles ne l'étaient dernièrement en Hollande, quand Louis XIV était aux portes d'Amsterdam. Mais l'affaire présente demande une sorte de délicatesse, dont, pardonnez-le-moi, mon frère, je vous soupçonne de manquer. Il y a un décorum qu'il faut garder avec une femme qui figure dans le monde comme Lady Bellaston, et ce décorum exige une connaissance du monde qui, je le crains bien, est fort au-dessus de celle que je vous connais. « Ma sœur, s'écria Weston, je sais que vous n'avez pas la moindre opinion de mon esprit. Mais je vous montrerai en cette circonstance si je suis un sot. J'aime bien que vous doutiez de mes connaissances. Vous verrez que j'aurais demeuré si longtemps dans ma province sans avoir pris quelque connaissance des usages et des lois du pays. Je sais que je peux prendre mon bien partout où je le trouve. Montrez-moi où est ma fille, et si je ne découvre pas le moyen de parvenir jusqu'à elle, je vous permettrai de m'appeler toute ma vie un sot. Il y a des juges de paix à Londres, aussi bien qu'ailleurs. » « Je vous proteste, répondit-elle, que vous me faites trembler pour le succès de cette affaire, que vous pourriez amener à une issue si favorable si vous vouliez vous conduire par mes conseils. Imaginez-vous réellement, mon frère, que la maison d'une femme de qualité soit faite pour être assiégée par des porteurs de sentence ou vos brutaux de juges de paix? Je vous instruirai comment vous devez vous y prendre. Aussitôt que vous serez arrivé à Londres et que vous aurez mis un habit décent, car, mon frère, en vérité, celui que vous avez sur vous en ce moment n'est pas présentable. Il vous faut envoyer chez Lady Bellaston pour lui faire vos compliments et lui demander la permission d'aller la voir. Quand vous serez admis en sa présence, comme vous le serez certainement, et que vous lui aurez raconté votre histoire, en ayant soin de me nommer à propos, car je crois que vous ne vous connaissez tous deux que de vue, quoique vous soyez parents, j'ose croire qu'elle retirera sa protection à ma nièce, qui lui en a certainement imposé. Voilà la seule méthode à suivre. Des juges de paix. Bonté divine. Imaginez-vous qu'un pareil scandale puisse avoir lieu dans la maison d'une femme de qualité, chez une nation civilisée? Au diable leur qualité, s'écria Weston. Une nation joliment civilisée, vraiment, où les femmes sont au-dessus des lois. Et pourquoi faut-il donc que je reste là, à attendre qu'on ait porté un tas de compliments de ma part à une infâme coquine qui soustrait une fille à son propre père? Je vous dis, ma sœur, que je ne suis pas si ignorant que vous le pensez. Je sais que vous voudriez me faire croire que les femmes sont au-dessus des lois, mais cela n'est pas vrai. J'ai entendu Milord dire aux assises que personne n'était au-dessus de la loi. Mais cette loi dont vous parlez est, je suppose, une loi d'Hanovre. Monsieur Weston, reprit-elle, je crois que votre ignorance augmente de jour en jour. Je vous assure que vous êtes maintenant la plus insigne bête. Pas plus bête que vous, ma sœur Weston. Morbleu, vous pouvez parler de votre politesse tant que vous voudrez. Mais il est sûr que vous n'en avez aucune pour moi. Je ne suis ni une bête, ni un imbécile, quoique je connaisse quelqu'un qui ait bien quelque chose d'approchant. Mais, bah, je veux vous montrer que j'ai plus de politesse que certaines personnes. « Monsieur Weston, vous pouvez dire tout ce qu'il vous plaira. Je vous méprise de tout mon cœur. Je ne me fâcherai donc point. D'ailleurs, comme dit avec raison ma nièce qui porte cet odieux nom irlandais, je m'occupe avec tant de soin de l'honneur et du véritable intérêt de ma famille, et conséquemment de ce qui regarde ma nièce Sophie, qui en fait partie, que je suis déterminé à faire moi-même en cette occasion le voyage de Londres. Car véritablement, mon frère, véritablement, vous n'êtes point un ministre propre à être employé dans une cour polie. C'est le Groenland, qui devrait toujours être le théâtre de vos négociations. Je remercie le ciel de ce que je ne vous comprends pas. Vous voilà jeté dans votre jargon hanovrien. Cependant, je vous ferai voir que je dédaigne d'être en reste de politesse avec vous. Et comme vous n'êtes pas fâché de ce que j'ai dit, je ne suis pas fâché non plus de ce que vous avez dit. J'ai toujours pensé, en effet, que c'était folie à des parents de se quereller. Et que s'il leur arrive de se dire un mot un peu vif, il faut le supporter mutuellement. Quant à moi, je ne garde jamais de rancune, et je trouve fort obligeant à vous d'aller à Londres. Car je n'y ai jamais été que deux fois en ma vie, et je n'y ai jamais resté plus de 15 jours à chaque voyage. Et on ne peut s'attendre que pendant cet intervalle, j'ai appris à y bien connaître les rues et les gens. Je n'ai jamais nié que vous connaissiez tout cela beaucoup mieux que moi. Il serait aussi ridicule à moi de vous disputer cela qu'à vous de me disputer la manière de conduire une meute de chiens ou de trouver un lièvre au gîte. C'est ce que je ne ferai pas, je vous le promets. Eh bien, moi, je vous promets que je ne vous disputerai pas l'autre point. » Il se forma alors, pour emprunter une expression de Mrs. Weston, une ligue entre les parties contendantes. Le curé arrivant au moment même, et les chevaux étant prêts, M. Weston partit après avoir promis à sa sœur de suivre ses avis. Quant à elle, elle fit ses préparatifs pour le suivre le lendemain. Weston, ayant fait part de tout ceci au curé pendant la route, ils convinrent tous deux qu'on pouvait très bien se dispenser des formalités prescrites. Il changea donc de résolution et se conduisit comme nous l'avons vu. Chapitre 7. Dans lequel il arrive différentes mésaventures au pauvre Jones. Telle était la situation des affaires quand Mrs. Honora arriva chez Mrs. Miller et fit demander Jones, comme nous l'avons vu à la fin du chapitre dernier du livre précédent. Lorsqu'elle se trouva seule avec lui, elle commença en ces termes. « Oh, mon cher monsieur, comment trouverai-je assez de force pour vous raconter ce qui s'est passé? Vous êtes perdu, monsieur. Ma pauvre maîtresse est perdue, et je suis perdu. » « Est-il arrivé quelque chose à Sophie ? » s'écria Jones, les yeux égarés et farouches. « Tout ce qu'il y a de pire !» s'écria à son tour Honora. « Oh, je ne retrouverai jamais une pareille maîtresse. Oh, pourquoi ai-je assez vécu pour voir ce malheureux jour ?» À ces mots, Jones pâlit, trembla, bégaya. Mais Honora poursuivit. « Oh, monsieur Jones, j'ai perdu ma maîtresse pour jamais. »« Comment ? Quoi ? Dites-moi au nom du ciel !» « Oh, ma chère Sophie !»« Vous pouvez bien la nommer ainsi. Elle était pour moi la meilleure des maîtresses. Je ne retrouverai jamais une pareille place. »« Au diable, votre place ! Où est ma Sophie ? Où est-elle ? Qu'est-elle devenue ?»« Oh oui, sans doute. On peut envoyer les domestiques au diable. Qu'importe ce qu'ils deviennent, quoi qu'ils soient renvoyés et ruinés pour jamais. Sans doute ils ne sont pas composés de chair et d'os comme les autres. Non, sans doute. » Qu'importe en conséquence ce qu'ils deviennent. Si vous avez dans l'âme quelque sentiment de pitié et de compassion, je vous prie de me dire sur le champ ce qui est arrivé à Sophie. Assurément, j'ai plus de pitié pour vous que vous n'en avez pour moi. Je ne vous envoie pas au diable parce que vous avez perdu la plus aimable maîtresse qu'il y ait au monde. Assurément, vous méritez qu'on ait pitié de vous, et moi aussi je mérite qu'on ait pitié de moi. Car, assurément, s'il y eut jamais une bonne maîtresse, « Qu'est-il arrivé ? » s'écria Jones, dans un transport qui ressemblait presque au délire. « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tout ce qui pouvait arriver de pire, et pour vous, et pour moi. Son père est venu à Londres et nous l'a enlevé à tous deux. » À ces mots, Jones tomba à genoux pour rendre grâce au ciel de ce qu'il n'était rien arrivé de pire. « Rien de pire, » répéta Honora, « et que pouvait-il arriver de pire pour nous deux ? Il l'a enlevé en jurant qu'elle épouserait M. Blifil. » Voilà pour vous, et pour moi, pauvre malheureuse, on me met à la porte. En vérité, Mrs. Honora, vous m'avez terriblement effrayée. J'imaginais qu'il était arrivé le plus affreux malheur à Sophie, tellement que la voir même mariée à Blifil me semble une bagatelle en comparaison. Mais tant que l'on vit, il y a de l'espérance, ma chère Honora. Dans ce pays de liberté, les femmes ne peuvent être contraintes par la force à se marier. « Sans doute, monsieur, cela est bien vrai. Il peut y avoir quelque espérance pour vous. Mais hélas, mon Dieu, quelle espérance y a-t-il pour moi, pauvre malheureuse? Et sûrement, monsieur, vous devez sentir que je souffre tout cela à cause de vous. Tous les reproches que M. Weston peut me faire, c'est d'avoir pris votre parti, comme en effet je l'ai toujours pris contre M. Blifil. Mrs. Honora, je sens toutes les obligations que je vous ai. Et je ne négligerai rien de ce qui sera en mon pouvoir pour vous dédommager. Hélas, monsieur, qu'est-ce qui peut dédommager un domestique de la perte de sa place, si ce n'est de lui en procurer une autre au moins aussi bonne? Ne vous désespérez pas, Mrs. Honora. J'espère vous faire rentrer dans la même place. Hélas, monsieur, comment puis-je me flatter d'une espérance semblable quand je sais que c'est une chose impossible? car M. Weston est si en colère contre moi, et quand même vous épouseriez un jour ma maîtresse, comme assurément j'espère aujourd'hui de tout mon cœur que vous l'épouserez, car vous êtes un jeune homme bon et généreux, et je suis sûr que vous l'aimez, et je suis sûr qu'elle vous aime aussi tendrement qu'on puisse aimer, c'est un fait que l'on irait en vain, parce que pourquoi tous ceux qui connaissent ma maîtresse, le moins du monde, doivent bien le voir, car la pauvre chère miss, elle ne peut pas dissimuler. Et si deux individus qui s'aiment mutuellement ne sont pas heureux, qui est-ce donc qui pourra l'être? Le bonheur ne dépend pas toujours de la fortune qu'on a. D'ailleurs, ma maîtresse en a assez pour deux. Assurément donc, comme on pourrait bien dire, ce serait une pitié générale dans le monde si l'on séparait deux pareils amants. Mais pour ma part, je suis convaincu que vous serez réunis un jour, car si cela doit être, il n'y aura pas moyen de l'empêcher. Quand un mariage est écrit dans le ciel, tous les juges de paix de la terre ne peuvent le rompre. Assurément, je voudrais bien que le curé Supple eût un peu plus de courage pour dire à M. Weston qu'il y a de la méchanceté à lui de vouloir forcer sa fille à se marier contre son inclination. Mais il dépend entièrement de M. Weston, et voilà pourquoi le pauvre homme, quoique bon et religieux, et quoiqu'il blâme la méchanceté d'une telle action derrière le dos de M. Weston, n'ose pas dire devant lui la vérité la plus simple. Assurément, je ne l'ai jamais vu faire tant de braves que tout à l'heure. Je craignais que M. Weston ne le fera pas. Je vous prie, monsieur, de n'être pas si mélancolique et de ne pas vous désespérer. Les choses pourront mieux aller, tant que vous serez sûr de ma maîtresse. Et cela, j'en suis sûr, vous pouvez l'être, car on ne la fera jamais consentir à en épouser un autre que vous. En vérité, j'ai une peur terrible que M. Weston, dans sa fureur, ne lui fasse du mal, car il est d'un tempérament terriblement colère, et j'ai peur aussi qu'il ne fasse mourir de chagrin ma pauvre maîtresse, car elle a le cœur tendre comme un poulet. C'est une pitié, à mon avis, qu'elle n'ait pas eu un peu de mon courage. Si j'aimais un jeune homme et que mon père voulut m'enfermer, je lui arracherais les yeux, et je m'enfuirais vers mon amant. Mais ici, il s'agit d'une grande fortune qu'il dépend du père de lui donner ou de lui refuser, et cela peut assurément faire quelque différence. Je ne puis décider si Jones prêta une attention suivie à la harangue qu'on vient de lire, ou si la volubilité avec laquelle elle fut prononcée sans repos ni intervalle l'empêcha de l'interrompre. La vérité est qu'il ne fit aucune tentative pour y répondre, et que Mrs. Honora ne se tut que lorsque Partridge entra en courant dans la chambre pour annoncer à son maître que la grande dame était sur l'escalier. Rien ne peut peindre l'embarras où Jones se trouva en ce moment. Honora ne savait rien de la liaison qui subsistait entre Lady Bellaston et lui, et elle était presque la dernière personne au monde à laquelle il eût voulu en faire confidence. Dans ce moment de trouble et de détresse, il prit, ce qui est assez commun, le plus mauvais parti, et au lieu de laisser voir Mrs. Honora à Milady, ce qui n'aurait pas eu de grandes conséquences, il préféra laisser voir Milady à Mrs. Honora. Il se détermina donc à cacher celle-ci, et n'eut que le temps de la conduire derrière le lit et de tirer les rideaux. Le tourment que Jones s'était donné toute la journée pour rendre service à sa malheureuse hôtesse et à sa famille, la frayeur que Mrs. Honora lui avait occasionnée, et la confusion où l'avait jeté l'arrivée soudaine de Lady Bellaston, avait aussi chassé de sa tête toute idée antérieure, en sorte qu'il ne se souvint pas une seule fois de jouer le rôle de malade, rôle que ni sa parure, ni la fraîcheur de son teint ne lui auraient pas en effet permis de bien représenter. Il reçut donc Milady plus agréablement, non qu'elle le désirait, mais qu'elle ne s'y attendait, c'est-à-dire avec toute la bonne humeur qu'il put montrer sur son visage, sans aucune apparence, ni feinte, ni réelle, de la moindre indisposition. Lady Bellaston ne fut pas plutôt entrée dans la chambre qu'elle alla s'asseoir sur le lit. « Vous voyez, mon cher Jones, lui dit-elle, que rien ne peut me retenir longtemps loin de vous. Peut-être devrais-je être fâchée de ce que vous n'êtes pas venu me voir, ni ne m'avez donné de vos nouvelles de tout le jour, car je m'aperçois que votre indisposition vous aurait permis de sortir. » Je suppose même, en vous voyant parée comme une jolie femme qui attend des visites, que vous n'avez pas gardé votre chambre toute la journée. Ne croyez pas cependant que j'ai l'intention de vous gronder. Je ne veux point vous fournir l'excuse ordinaire de la froideur d'un mari en vous montrant la mauvaise humeur d'une femme. Assurément, Lady Bellaston, vous n'êtes pas en droit de me reprocher de la négligence, puisqu'au contraire, je n'ai fait qu'attendre vos ordres. Qui de nous deux, chère Milady, a raison de se plaindre? Qui a manqué hier soir à un rendez-vous? Qui a laissé un malheureux attendre, souhaiter, soupirer et languir? Ne parlez pas de cela, mon cher monsieur Jones. Si vous en saviez la cause, vous me plaindriez. En un mot, il est impossible de concevoir ce que les femmes de condition sont obligées de souffrir de l'impertinence des sots pour faire quelques figures sur le plaisant théâtre du monde. Je me réjouis cependant que toutes vos langueurs et tous vos soupirs ne vous aient pas fait de mal, car vous n'avez jamais eu meilleur visage de votre vie. Sur ma foi, Jones, vous pourriez en ce moment servir de modèle si l'on voulait avoir le portrait d'Adonis. Il y a certains mots de provocation auxquels les gens d'honneur prétendent qu'on ne peut répondre convenablement que par un soufflet. Peut-être y a-t-il parmi les amants quelques expressions auxquelles on ne peut répondre que par un baiser. Le compliment que Lady Bellaston faisait alors à Jones nous paraît être de cette nature, d'autant qu'il était accompagné d'un regard tendre qui signifiait infiniment plus que tout ce que la parole aurait pu exprimer. Jones était certainement alors dans une des situations les plus désagréables et les plus embarrassantes qu'on puisse imaginer. Car, pour continuer la comparaison dont nous venons de nous servir, quoique la provocation vînt de Milady, Jones ne pouvait en tirer satisfaction, ni même la demander en présence d'un tiers, les seconds dans ces espèces de duels n'étant pas autorisés par la loi des armes. Comme cette objection ne se présenta pas à Lady Bellaston, qui ignorait qu'il y eût une autre femme dans la chambre, elle attendit quelque temps avec grande surprise une réponse de Jones, qui, honteux de la ridicule figure qu'il faisait, se tenait toujours à la même distance, et qui, n'osant faire la réponse convenable, n'en faisait aucune. On ne peut rien imaginer de plus comique et cependant de plus tragique que n'aurait été cette scène si elle eût duré un peu plus longtemps. Milady avait déjà changé de couleur 2 ou 3 fois, s'était levée du lit, s'y était rassise, tandis que Jones faisait des vœux pour que le plancher s'écroulât sous ses pieds ou que la maison lui tombât sur la tête, quand un accident étrange le tira honorablement d'un embarras dont ni l'éloquence de Cicéron ni la politique de Machiavel n'auraient pu le délivrer sans qu'il eût eu la honte d'une disgrâce complète. Ce n'était rien autre chose que l'arrivée du jeune Nightingale, ivre-mort, ou plutôt dans cet état d'ivresse qui prive un homme de l'usage de sa raison sans le priver de l'usage de ses membres. Mrs. Mella et ses filles étaient couchées, et Partridge fumait sa pipe au coin du feu de la cuisine, en sorte que Nightingale arriva sans le moindre obstacle à la porte de la chambre de M. Jones. Il l'ouvrit avec fracas et allait entrer sans cérémonie quand Jones s'élança de son siège et courut à lui pour s'opposer à son passage. Ce qu'il fit avec assez de promptitude pour empêcher Nightingale d'entrer dans la chambre et de voir la personne qui était assise sur le lit. Le fait est que Nightingale s'était trompé d'appartement et avait pris celui de Jones pour celui dans lequel il logeait précédemment. Il insistait donc vivement pour y entrer, jurant à plusieurs reprises qu'on ne l'empêcherait pas de coucher dans son lit. Jones, cependant, parvint à lui faire changer d'idée et le remit entre les mains de Partridge, que le bruit qu'il avait entendu au haut de l'escalier avait fait venir au secours de son maître. Jones fut alors obligé de revenir malgré lui dans son appartement. Au moment même qu'il y rentra, il entendit une exclamation à demi-voix sortir de la bouche de Lady Bellaston, et en même temps il la vit s'élançant dans un fauteuil et tellement agitée qu'une femme d'une constitution délicate en aurait pris une violente attaque de nerfs. La vérité est que la dame, effrayée d'une dispute entre deux hommes, et en prévoyant d'autant moins l'issue qu'elle avait entendu Nightingale jurer plusieurs fois qu'il voulait ravoir son lit, avait voulu se cacher derrière celui où elle était assise, comme elle l'avait déjà fait une autre fois, et qu'à sa grande confusion, elle avait trouvé la place occupée par une autre. « Peut-on supporter d'être traité ainsi, monsieur Jones ? » s'écria-t-elle. « Oh, le plus vil des hommes ! Quelle est la malheureuse en présence de laquelle vous m'avez compromise ?» « La malheureuse ? » s'écria à son tour Mrs. Honora. sortant de sa retraite dans un violent accès de rage. Très dame, ah oui, malheureuse en effet. Mais toute pauvre malheureuse que je suis honnête, et c'est plus que n'en peuvent dire bien des gens qui sont plus riches que moi. Jones, au lieu de s'appliquer sur le champ à calmer le ressentiment de Mrs. Honora, comme il l'eût fait s'il eût eu plus d'expérience, se mit à maudire son étoile et à gémir comme l'homme le plus malheureux du monde. Puis, s'adressant à Lady Bellaston, il lui fit les plus absurdes protestations de son innocence. Pendant ce temps, la dame, ayant recouvré l'usage de sa raison, qu'elle avait à ses ordres autant que femme sur terre, notamment en pareille circonstance, répliqua avec calme « Vous n'avez pas besoin de justification, monsieur. Je vois maintenant qui c'est. Je n'avais pas d'abord reconnu Mrs. Honora, mais à présent je ne puis soupçonner qu'il se soit passé rien de répréhensible entre elle et vous. Et je suis sûr qu'elle a trop de bon sens pour donner aucune mauvaise interprétation à la visite que je vous fais. J'ai toujours été son ami, et il peut arriver que je le sois beaucoup davantage encore par la suite. » Mrs. Honora était aussi facile à apaiser qu'elle était prompte à se mettre en colère. Aussi, dès qu'elle eut entendu Lady Bellaston prendre un ton plus doux, elle adoucit également le sien. « Madame, lui dit-elle, je vous assure que je n'ai jamais manqué d'être reconnaissante de vos amitiés pour moi. Sûrement, je n'ai jamais eu de meilleure amie que Milady. Et sûrement, à présent que je vois que c'est à Milady que je parle, je voudrais presque m'arracher la langue pour les sottises que j'ai dites. Qui, moi, donner une mauvaise interprétation à la conduite de Milady? Oser mal penser d'une aussi grande dame? Sûrement, cela ne convient pas à une domestique telle que je le suis. Je veux dire telle que je l'étais, car dans la vérité, je ne suis plus domestique de personne. La plus misérable de toutes les créatures, c'est moi. J'ai perdu la meilleure maîtresse. » Ici, Mrs. Honora crut convenable de verser un torrent de larmes. « Ne pleurez pas, mon enfant, lui dit la compatissante Lady. On pourra peut-être trouver moyen de vous dédommager. Venez me voir demain matin. » Elle ramassa alors son éventail, qui était à terre, et sans même regarder Jones, elle sortit très majestueusement de la chambre. Il faut convenir qu'il y a dans l'impudence des femmes de qualité une sorte de dignité, à la hauteur de laquelle leurs inférieurs tâcheraient en vain d'atteindre dans les circonstances de cette nature. Jones la suivit jusqu'au bas de l'escalier et lui offrit la main à plusieurs reprises pour descendre, mais elle la refusa obstinément et monta dans sa chaise à porteur sans faire la moindre attention à lui, quoiqu'il l'accablât de révérence. Dès qu'il eut remonté l'escalier, il y eut un long dialogue entre lui et Mrs. Honora, pendant qu'elle réparait le désordre de son ajustement. L'entretien roula sur son infidélité envers Sophie. Elle ne tarissait pas sur ce sujet et en parlait avec une grande amertume. Mais Jones trouva enfin les moyens de l'apaiser et d'en obtenir la promesse du secret le plus inviolable. Il lui fit promettre encore que dès le lendemain matin, elle tâcherait de découvrir où était Sophie et viendrait lui rendre compte de la manière dont M. Weston continuerait à se conduire avec elle. Ainsi finit cette malheureuse aventure à la satisfaction de Mrs. Honora seule. Car, et ceux de mes lecteurs qui en auront fait l'expérience seront forcés d'en convenir, un secret est souvent une possession très précieuse, non seulement pour ceux qui le gardent fidèlement, mais quelquefois pour ceux qui le disent tout bas à leurs voisins et amis, jusqu'à ce qu'il parvienne aux oreilles de tout le monde, excepté de la personne qui, ignorant cette petite infidélité, paye pour cacher ce qui est publiquement connu.